Retrouvez vite La France bouge avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des patronnes, des patrons qui se retroussent les manches dans un monde en plein changement. Et partout en France, des acteurs de la société imaginent déjà ce monde de l'après-crise. Ici c'est simple, on trouve des solutions. Elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Il le présente comme l'iPhone du vélo. Ce vélo est bourré d'électronique et selon ses concepteurs, le vélo le plus sûr du marché. Ce vélo s'appelle Angel, il a été lancé par Marc Simoncini et les ventes s'envolent. On en parle jusqu'à 14h.
À la une, la mobilité douce avec une entreprise chère aux champions de vélo, Poulidor. Une entreprise qui est en train de relocaliser sa production de vélos près de Charleville-Mézières. Le PDG des Cycles Mercier est dans notre studio.
Tiens, et si la mobilité urbaine passait aussi par les téléphériques ? Là encore, nous avons un des leaders mondiaux, Poma. Vous les voyez sûrement au ski et de plus en plus dans nos villes. Poma, ce sera la saga du jour vers 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1, La France bouge. Un projet est défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, Itik. Des livraisons pas éthiques, hein. Itik, des livraisons de repas vegan, végétariens. On écoutera le pitch de ce projet à 13h45.
Et demain au travail, une entreprise a ouvert ses espaces vides aux étudiants. Nous passerons un coup de fil au cofondateur de Startway.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Allez, à bicyclette, c'est ce que l'on disait dans un temps. On pouvait encore aller au restaurant. La France bouge s'intéresse aujourd'hui au vélo électrique et on en parle avec notre témoin du jour.
Bonjour Marc Simoncini.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes l'homme qui a fondé Mythic, mais si vous êtes aujourd'hui dans La France bouge, comme notre grand témoin du jour, c'est parce que vous êtes le fondateur du vélo électrique intelligent Angel, vendu 2690 €. Il a été designé par Oraito. Angel a été créé il y a un peu plus d'un an. Vous dites que c'est l'iPhone du vélo. Comment est-il, Angel ?
En fait, il a été pensé il y a plus de 3 ans maintenant, parce qu'on avait fait le pari que une des grandes capitales européennes allait enlever les voitures thermiques individuelles des centres-villes. La ville devenait insupportable, le bruit, la pollution. Donc on a fait ce pari et on s'est dit, quel est le meilleur moyen de se déplacer dans une ville quotidiennement ? Le trajet moyen, c'est 4 à 5 km chaque jour. Et on a pensé que c'était le vélo électrique. Le principal frein du vélo, et surtout du vélo électrique, c'est le vol et la sécurité du passager. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour faire un vélo très sûr pour le passager et très sûr pour le vélo lui-même. Et pour faire ça, il a fallu qu'on mette beaucoup d'électronique dans le vélo. Et donc, on a essayé de rendre le vélo involable et on a essayé de rendre le vélo le plus sûr possible pour le passager.
On va venir là-dessus. Mais une question que vous avez peut-être trouvée toute belle. Pourquoi il s'appelle Angel, ce vélo ?
D'abord, il fallait trouver un nom. Et le vélo d'avant...
Jusque-là, on avait à peu près trouvé la réponse.
Jusque-là, on est d'accord. Le vélo qu'on a lancé avant, qui était une Formule 1 du vélo de course, un truc vraiment très cher, fait sur mesure, on l'avait appelé Héroïne. Donc, c'était un peu le côté drogue dark. Il était tout noir. Et là, je cherchais un nom. On a eu beaucoup de mal à trouver. Un matin, en fermant la porte de ma maison, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à un ange en disant c'est l'ange qui permet de déplacer dans la ville. Et donc, on a appelé ça Angel.
Alors, on va parler de cet ange électrique. Justement, il est bourré d'électronique, de logiciels. Vous le présentez comme le vélo le plus sûr du monde. Alors vous venez de le dire, déjà c'est pour éviter de se le faire voler. Je crois que tout est mis en place pour qu'on puisse toujours le garder avec nous.
C'est un vélo qui, si vous le volez, si vous partez avec sur le dos, c'est le seul moyen de le voler finalement. Hein, parce que le moteur ne démarrera jamais, le moteur ne marchera pas. Vous ne pouvez même pas le démarrer puisque vous n'avez pas l'iPhone associé au vélo. Donc franchement, le vélo il ne sert à rien. Vous pouvez quand même partir en courant avec sur le dos si vous ne l'avez pas attaché. Mais si vous faites ça, il est... traçable sur une carte pendant c'est une bonne semaine. Donc de toute façon, on saura exactement où est le vélo pendant une semaine sur un iPhone. Donc à part le voler pour le dépiauter et revendre les roues, la selle ou le métal, ça a peu d'intérêt. D'ailleurs, sur les 2000 vélos qui roulent, il y en a eu 2 qui ont été volés jusqu'à présent.
Et retrouvés.
Et les 2 ont été retrouvés. Par la police et un par son utilisateur, je crois.
Ça, c'est pour la question de la sûreté, mais il y a également, comme vous le disiez très bien, Marc Simoncini, le fait que l'on soit, nous, en sécurité sur ce vélo. Et là aussi, l'électronique vient à notre rescousse. Il y a un écran tactile pour ceux qui n'auraient pas encore vu votre vélo. Il y a 4 modes d'assistance. Et puis, par exemple, je crois que si on tombe du vélo, il appelle nos proches pour dire hop, Pépère est tombé.
Et il vous dit Pépère est tombé, mais déjà, est-ce que Pépère réagit en 30 secondes ? Si 30 secondes après, vous cliquez en disant que vous allez bien, ça va. Mais si vous ne répondez pas, c'est que vous allez mal. Et donc, on envoie un SMS avec la géolocalisation de l'endroit où vous êtes a priori évanoui. Le proche que vous choisissez.
Un proche de confiance. Alors, on peut faire 70 km avec la batterie. Pour nos auditeurs, ils ne le savent peut-être pas, mais vous êtes venu avec votre propre vélo. Vous êtes venu à vélo. Ouais. Donc, vous avez une batterie qui pèse
2 kilos. Donc, c'est très léger. Et surtout, elle a deux feux ici. Donc, ça, c'est des feux de signalisation.
Deux feux devant, comme si c'était un aimant.
Donc, c'est à l'arrière. C'est à l'arrière. C'est les feux stop, c'est les clignotants. Donc, le vélo est équipé de clignotants avant-arrière et deux phares à l'avant pour être signalisé visuellement.
Et elle se recharge en 2 heures.
En 2 heures.
Donc, l'idée, c'est de faire de ce vélo le moyen de transport des personnes, des urbains, des personnes qui vivent en ville.
Oui, c'est un vélo qui est fait pour commuter, on appelle ça commuter dans les villes, pour des trajets qui font 5 à 10 km quotidiennement. C'est pour ça qu'il est très léger et surtout c'est un vélo qui a été pensé pour pouvoir être utilisé sans moteur. Ce que je viens de faire, moi je viens de faire 25 minutes pour venir de chez moi, je n'ai pas mis le moteur, c'est un vélo normal. Ça fait du sport, ça calcule mes calories, ça s'additionne toutes les semaines. Et par contre au retour, si j'ai un rendez-vous, il ne faut pas que j'arrive en sueur, je mets le mode de moteur qui m'intéresse.
Mais pourquoi vous êtes parti sur un vélo si haut de gamme, hein, Elisabeth le disait en introduction, 2690 euros, ça en fait quand même partie des vélos qui sont très très chers pour les vélos électriques, alors que ça doit être, dans ce que vous décrivez, notre vélo de tous les jours.
Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est que si on avait voulu faire un vélo pas cher, il aurait fallu le faire en Chine. Et donc, comme on voulait que ce soit fait en France, le seul moyen d'industrialiser un produit aujourd'hui en France, c'est de mettre une forte valeur ajoutée dans le produit. Forte valeur ajoutée, il y en a 3. Le design, ça peut se copier. La fabrication, l'industrialisation et toute la conception du vélo, ça, c'est fait en France. Le cadre est fabriqué en France. Le vélo est assemblé en France. Et le troisième sujet, c'est tout le logiciel. La principale valeur d'Angel, c'est pas d'avoir fait un vélo, c'est d'avoir réussi à développer du logiciel à un point que on puisse mettre le vélo à jour à distance, on peut mettre de nouvelles versions chaque jour, on peut augmenter la vitesse du vélo si on a envie. Enfin, tout ce logiciel pensé, conçu en France, fait qu'on a réussi à fabriquer le vélo en France. Ça a un coût et on n'aurait jamais pu
le faire en dessous de ce prix-là, de 2690 euros.
Mais on sait que par exemple, Apple, parce que vu que vous aimez bien dire que vous êtes l'iPhone du vélo, on sait qu'Apple fait une marge énorme. Ils pourraient vendre beaucoup moins cher leurs iPhones. Ils ont décidé d'être sur quelque chose de très haut de gamme.
Alors la différence.
Vous faites une marge aussi grosse que celle de l'iPhone?
Peut-être, j'en sais rien. La seule différence, c'est que ça ne peut pas être.
À 45% de marge, a priori.
On n'est pas très loin. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas automatiser la fabrication d'un vélo. C'est humain. Ce sont des gens qui montent le vélo. On parle tant qu'on veut, mais...
Je crois qu'on peut dire merci à votre fils, hein, si on est là aujourd'hui quand même.
Ouais, c'est vrai.
Parce que l'idée vient de votre fils. Vous vouliez lui acheter une voiture, c'est ça?
Non, en fait, il voulait un scooter. Je lui ai dit, mais non, jamais tu auras un scooter. Quand tu auras 18 ans, je t'achèterai une Smart. Et il m'a regardé, mais spontanément. Mais qu'est-ce que je fasse avec une voiture? Et là, j'ai eu un flash en disant, mais c'est vrai, dans la tête des gamins de 18 ans aujourd'hui, est-ce que vraiment ils veulent une voiture, quoi? Et donc, je me suis dit, bah non, ils n'en veulent plus. Nous, c'était notre rêve d'avoir une voiture à 18 ans.
Mais il a son vélo, ça y est, maintenant?
Bah non, pas encore. Mais...
il va l'acheter, hein?
Peut-être, je vais en offrir un.
Marc Simoncini, vous êtes le fondateur du vélo électrique Angel. Et vous, restez avec nous.
Europe 1.
Et il est tout juste 13h18 sur Europe 1.
À suivre, elle est la première marque française de vélo qui va se relocaliser après des années passées en Asie.
Oui, si vous êtes des fidèles du Tour de France, si vous adoriez Raymond Poulidor, vous avez vu Cycle Mercier écrit comme ça sur le vélo. Eh bien, c'est eux qui s'apprêtent à revenir en France. Et on parle vélo aujourd'hui dans La France Bouge, en direct, ensemble jusqu'à 14h, avec notre grand témoin du jour, Marc Simoncini. Il a créé le vélo électrique intelligent Angel, et ça marche très très fort, c'est ce qu'on voit depuis le début de cette émission.
Et on voit aussi que la crise sanitaire a accéléré l'utilisation des vélos, des mobilités douces, elle a donné des envies à des entrepreneurs pour que nous aussi on ait des vélos français. C'est ce que vous avez fait, Jean-Marc Seguesi, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le PDG des Cycles Mercier, vous avez racheté la marque il y a une quinzaine d'années. Alors si vous ne connaissez pas les Cycles Mercier, c'est une marque française centenaire, c'est la marque qui équipait Raymond Poulidor autrefois à Saint-Étienne. Puis, elle a été délocalisée en Asie. Et d'ici à la fin de l'année, très bonne nouvelle, la relocalisation de leur production va revenir chez nous, en France, dans les Ardennes.
Oui,
que s'est-il passé? Comment vous avez fait?
Écoutez, c'est simple. Hein, j'ai été mis en contact avec le ministère de l'Industrie. De là, ils nous ont cherché des régions qui nous permettaient de relocaliser cette industrie de cycle. Et il s'est avéré que les Ardennes se sont fortement investies pour qu'on puisse trouver un site qui corresponde à nos besoins.
Région donc, assez sinistrée, il faut le dire aussi, c'est pas, sinistrée. C'est pas pour rien que ce
oui,
soit dans les Ardennes.
Avec un taux de chômage assez important, mais quand même une région très industrialisée sur la métallurgie qui correspond un peu à notre industrie. Mmh. Et puis au fait aussi la proximité des ports européens, des principaux ports européens, en l'occurrence Rotterdam et Anvers, qui nous permettent quand même, puisque malgré tout cette industrie, beaucoup de composants sont importés d'Asie du Sud-Est, ce qui nous permet une facilité d'importation.
Quand vous dites « j'ai été mis en contact avec les services de la relocalisation à Bercy », c'est eux qui vous ont appelé, qui avaient diagnostiqué votre besoin? Quelqu'un leur avait dit « tiens, appelle du côté des cycles Mercy, ils veulent revenir en France » Ou c'est vous qui avez profité du plan de relance?
Eh bien écoutez, j'ai eu l'opportunité par un député, M. Nogal, de la région Haute-Garonne, d'être mis en relation avec le ministère de l'Industrie, tout simplement. Et je dois dire, j'étais agréablement surpris du dynamisme de l'ensemble des intervenants, à tous les niveaux que ce soit au niveau national, au niveau local, au niveau régional. Tout le monde s'est beaucoup investi.
Mais ils vous ont trouvé le lieu ou ils vous ont donné des sous aussi pour vous réindustrialiser chez nous?
Les deux.
Vous allez voir combien?
On ne sait pas encore, c'est en cours d'études, ce n'est pas encore finalisé en fait. Hein, puisque ça dépend beaucoup de choses, ça dépend bien évidemment de la création de l'emploi, puisqu'en fait on va partir sur une création de 140 emplois pour monter à plus de 250 emplois, voire plus, en suivant des besoins.
Alors au moment où nous parlons, il y a plusieurs sites de production, on est en Asie du Sud-Est, Portugal, Europe de l'Est. Comment allez-vous tout rapatrier en France?
Écoutez, on va le faire de façon progressive. Hein. L'idée, c'est de ramener le maximum de production en France. Aujourd'hui, je dirais que malgré la crise sanitaire, on a un énorme souci d'approvisionnement sur les produits et les composants d'Asie du Sud-Est. Donc je pense que la période s'y prête complètement, justement, pour rapatrier la production plus près de chez nous, c'est-à-dire en France ou en Europe. Quoi, en fait.
Mais qu'est-ce que ça va changer, puisque une partie de vos composants viendront toujours d'Asie et potentiellement ils manqueront toujours? Qu'est-ce que ça va changer de produire là pour vous en France?
On n'aura plus les mêmes ruptures de charges, si vous voulez, et donc en fait on aura un flux direct d'achat des composants directement chez les fabricants de composants pour aller directement sur notre outil de production qui sera français.
Dans un métier comme le vôtre, le Made in France, ça veut dire quelque chose?
Ah oui, oui.
Ça veut dire quoi alors?
Au niveau de l'industrie, bon, quand même, si vous voulez, l'industrie du cycle, c'est une industrie qui a quand même perdu ses lettres de noblesse durant les deux ou trois dernières décennies par la délocalisation. Il y avait énormément de fabricants de composants français qui ont soit délocalisé, soit qui ont fermé, des fabricants de composants, comme on en parlait précédemment. Vous avez des marques comme Strongly, Schmafac, Pélissier, énormément de fabricants, même des fabricants de cycles, des marques qui ont disparu. Et qui aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un vrai potentiel. Quoi. Le Made in France est très intéressant, et pour la marque Mercier, pour nous, mais aussi, puisqu'on est présent dans différents réseaux de distribution, pour faire des marques distributeurs.
Bah alors vous dites que ça va se faire progressivement. Alors quand les premiers vélos français seront-ils livrés?
Écoutez, ça ne dépend pas que de moi. Je dirais que ça dépend aussi, puisqu'en fait, il faut savoir qu'on est en train de réhabiliter une friche. Donc en fait, sur un ancien site Porsche, qui va nous permettre suivant la réhabilitation du cycle, nous, on pourrait être prêts sur le dernier trimestre de l'année 2020.
Oui, donc ça va aller 2021. Ah ben, mais c'est parce que vous avez envie que ça ouvre, donc c'est pour ça on pense tous que ça va aller.
Vous avez raison, je les pousse.
Allez, très très vite. Donc on voit le monde du vélo qui est en train de se renationaliser, hein, d'une certaine manière. Marc Simoncini, je rappelle que vous êtes derrière le vélo électrique intelligent Angel, vous en êtes son fondateur. Ce qui est assez impressionnant, c'est les chiffres que vous communiquez. 3000 vélos vendus l'an dernier, alors que vous espériez en vendre 1500, je crois, sur la première année. 5000, alors que vous espériez en vendre 1500. Et je crois que cette année, c'est 20 000 ventes qui sont annoncées. Comment vous expliquez cet engouement?
Effectivement, nous, on a été complètement pris de court sur les volumes de ventes, de précommandes qu'on a enregistrés l'année dernière, puisqu'on pensait en faire 1500 et on a eu 5000 commandes. On était face à un problème qui était de produire. On n'avait pas apprévisionner suffisamment de pièces pour faire 5000 vélos. Et surtout, on ne savait pas construire une usine, nous, qui fabriquait autant de vélos. Donc, on est allé rencontrer un énorme industriel, qui est le groupe Seb, à qui on a présenté ce projet. Et on s'est dit que c'était le partenaire idéal, parce que c'est un objet extrêmement complexe à fabriquer, extrêmement complexe.
Mais pourquoi Seb, c'est, pour moi, c'est le roi de la cocotte minute.
C'est un industriel. Ouais, mais c'est un industriel.
Mais la raison, Elisabeth, c'est vrai qu'on se dit la cocotte minute, l'autocuiseur en Chine, le Cookeo pour ceux qui veulent un robot à tout faire. Comment ils savent faire un vélo?
Il apporte quoi sur le vélo?
Ils savent faire de la plasturgie, ils savent faire de l'électronique, ils savent faire du câblage, ils savent faire de la logistique.
Et pourquoi pas un industriel du vélo?
Parce qu'un industriel du vélo, je vais expliquer, d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Et l'intérêt d'être avec le groupe Seb, c'est que, par exemple, demain matin, si je décide d'aller vendre mon vélo en Australie, est-ce que vraiment le fait que le vélo soit fait en France est un avantage?
Non, il faut qu'il ait son usine
Seb,
en Australie.
Ils ont une usine au Vietnam. On pourrait très bien construire les vélos là-bas. Si demain matin, on a une rupture, on en parlait, sur les pédales. On ne trouve plus de pédales dans le monde qui nous conviennent parce qu'il y a une pénurie de pédales. Seb, ils sont capables, dans une de leurs usines, de produire une pédale. Donc, avec un industriel, entre guillemets, touche à tout, sans que
global,
ce soit péjoratif,
industriel global,
on va pouvoir produire des parties du vélo dans l'ensemble du groupe Seb. Et c'est ce qui explique leur implication dans ce projet, entre autres.
Jean-Marc Séguézi, nous, en tout cas, on attend avec impatience vos vélos. Hein. Tenez-nous au courant. On se dit fin 2021, max.
J'espère avant.
Eh bien, on va voir à la France Bouge. Dès que le premier sort, vous nous passez un petit coup de fil et puis on fera une petite photo avec vous de ce vélo qui arrive. Un grand merci en tout cas à vous, Marc Simoncini, le patron d'Angel, le vélo électrique intelligent. On vous garde, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, il est 13h28. À suivre, direction l'Isère avec le leader du transport par câble depuis 47 ans.
Oui, on peut appeler ça un téléphérique, un télécabine. Ils font même des télésièges, ils font aussi des funiculaires. Ça s'appelle Poma. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça, ces quatre lettres. C'est notre saga du jour. Dans la France bouge dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et comme chaque jour, on est très heureux avec Elisabeth d'être en direct avec vous sur Europe 1 de 13h à 14h pour La France Bouge. On fait du vélo aujourd'hui, en l'occurrence du vélo électrique. Ce vélo s'appelle Angel. Il a été imaginé par le serial entrepreneur Marc Simoncini qui est notre invité jusqu'à 14h. Vous avez eu de la chance quand même finalement avec le Covid, parce que certes ça a compliqué votre production, ce que vous nous disiez tout à l'heure, mais ça a accéléré la mutation de nos villes. Si on prend rien que l'exemple de Paris, on a même appelé les coronapistes pour le coronavirus, les pistes de vélo, elles devaient rester là le temps du coronavirus, et puis bien sûr, elles sont toujours là. New York également a fait de même et a accéléré sa mutation, et plein d'autres capitales dans le monde. C'est le rêve pour vous?
Alors, on a eu de la chance, mais enfin, nous, on avait prévu le coup il y a 3 ans, quand on a dit on pense que les vélos vont envahir les villes, on n'avait ni idée du Covid, ni idée des gilets jaunes. Ensuite, il y a eu la première vague, ça a été les gilets jaunes, les grèves. Ça a commencé à développer l'idée que pour se déplacer dans une ville, franchement,
la voiture,
c'était pas le bon truc.
Fallait oublier le transport en commun et la voiture.
Ouais. Et après, on a eu évidemment le Covid qui, là, pour le coup, a fait exploser le marché du vélo au niveau mondial, mais enfin, le contre-coup, on peut dire que ça a annulé le coup de chance. C'est que ça nous a tellement compliqué la vie pour la production qu'on peut dire que ça s'est annulé. Ça.
Comment vous avez pu vous lancer dans une aventure pareille, en plein confinement, dans la période la plus compliquée de l'histoire, avec l'Asie fermée? Comment vous avez fait?
Mais nous, on n'avait pas prévu ça. On était sur le bateau, on était partis en disant on va aller atteindre l'île qui est là-bas. On était tous sur notre bateau, on en avait tout réglé. Et là, on s'est pris une énorme tempête dans la figure et il a fallu continuer, quoi. Et donc,
ça a été... À quel moment vous êtes dit, bon, allez, on mettra ça quand la crise sera terminée?
Non, on ne s'est jamais dit ça parce qu'on était embringués dans le truc, on avait lancé le train, il fallait que le train fabrique les rails pendant qu'il avance, quoi. Donc, le train arrivait et nous, on posait les rails chaque jour pour essayer qu'il aille le plus loin possible sans se crasher. Ça a été un enfer. Parce que croyez-moi que construire un outil industriel, découvrir les normes européennes du vélo, parce que chaque morceau du vélo, comment l'a inventé? Par exemple, je vous donne un truc idiot. Le fait qu'il y ait un écran sur un vélo, ça n'existe pas. On est les premiers à faire ça. Donc, les normes de certification, ce qu'on appelle le cockpit, on ne savait pas trop si on était considéré comme un iPhone, comme un ordinateur, comme une centrale nucléaire.
On avait considéré comme quoi?
Donc, tout ça, au milieu des faits du moment où les labos étaient fermés, parce qu'en plus, ils étaient sous Covid, donc les labos de test étaient fermés. Enfin, on a je vais juste terminer là-dessus. Elon Musk, qui a quand même réussi à faire décoller les fusées et les
ratter. Qui est le patron de Tesla, les voitures électriques. Ouais.
Qui a quand même réussi à faire décoller une fusée et la faire se reposer au même endroit, a quand même expliqué que la chose la plus dure qu'il a fait dans le monde, c'était de fabriquer 3000 Tesla par semaine. Parce que la logistique qu'il faut pour arriver à fabriquer des objets industriellement, c'est un cauchemar.
En période de Covid, que personne ne croyait qu'on puisse y arriver. Il n'y a pas que lui qui estimait que ce soit compliqué. Mais justement, vous faites beaucoup d'analogies avec l'iPhone. L'iPhone, il y a eu toute une gamme, que ce soit l'iPod, que ce soit l'iPad. Il y a eu tout un écosystème qui a été créé. Est-ce que vous, il y aura par exemple les trottinettes Angel, qu'on pourrait tout à fait imaginé, décliné du vélo.
On avait cette idée au départ en disant, nous, finalement, notre job, c'est d'imaginer la ville de demain et les meilleurs objets pour se déplacer dans les villes demain. Je crois qu'à un moment donné, à l'âge aidant, il faut devenir modeste. Déjà, si on arrive à faire un vélo tel qu'on l'imagine et tel qu'on pense qu'on va transformer, parce que Angel, c'est juste le début. Là.
Donc, il y aura d'autres versions.
Il y aura d'autres versions, il n'y aura pas forcément Angel d'autres
1,
modèles.
Angel 2.
Il y aura pas d'autres modèles, il y a deux modèles.
Il n'y a pas question de faire un modèle d'entrée de gamme, par exemple. Là, c'est 2690 ans.
Si c'est le même design et si on arrive à mettre des fonctionnalités qui nous conviennent dans un vélo moins cher, on le fera, mais on ne dessinera pas un troisième design avec un troisième vélo. On ne deviendra pas une marque qui fait 70. D'ailleurs, l'iPhone, c'est toujours la même forme qui évolue. Ça, on est sur
pareil.
Cette voie-là.
Il est vendu chez Fnac, Darty, chez Boulanger. C'est important de le montrer partout, qu'il soit accessible.
Alors, c'était très important au départ parce que, d'abord, c'était complètement nouveau. Donc, les gens pouvaient avoir peur de ce truc-là. C'était un peu un ovni. Ils ne l'avaient jamais vu en vrai. Et on s'est dit, finalement, l'arrivée à le mettre à la Fnac, c'est prendre un vélo et le mettre dans un univers qui est dans l'inconscient collectif de l'électronique, des objets connectés, de l'high-tech, de l'innovation. Donc, c'était très important, ce deal qu'on a eu avec la Fnac, pour que les gens puissent voir le vélo dans les Fnac et le
Mais ce qui est intéressant, c'est tout le modèle que vous avez déployé derrière. Parce que, alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu à la Fnac, on arrive, on prend son iPhone ou un autre téléphone, on scanne le QR code qui est à côté, et c'est pas un vendeur de la Fnac ou de Boulanger qui vient, c'est votre représentant à vous, parce que partez du principe un peu comme une voiture. On n'imaginerait pas une voiture sans l'essayer. Et bien là, quand on débourse 2690 euros, on va faire un tour à voir.
Exactement.
Avec.
Donc tout notre modèle, c'est de prendre des rendez-vous pour tester le vélo. Donc on a des ambassadeurs qui sont déployés sur toute la France et toute l'Europe, qui sont là pour vous faire essayer le vélo une fois que vous avez pris rendez-vous avec eux. Donc on développe un réseau d'ambassadeurs dans toute l'Europe et aussi un réseau de guardians pour réparer les vélos chez vous ou dans un atelier centralisé s'il y a des problèmes. Donc c'est un énorme travail qui est devant nous pour faire... ailleurs qu'en France, ce qu'on a fait en France.
Et comme Apple, vous aurez vos propres boutiques partout dans le monde.
Alors au départ, pour être honnête, on se disait qu'on n'avait jamais les moyens d'ouvrir des flagships dans les grandes capitales, c'était trop cher. Mais le Covid aidant et les loyers étant ce qu'ils sont devenus, on ne désespère pas de pouvoir ouvrir des flagships dans les principales capitales dans lesquelles
on sera. À quel horizon ?
Là, tout de suite, maintenant, bientôt.
Donc là, vous regardez. C'est-à-dire que vous n'attendez plus que de signer le bail à Paris, c'est ça ?
À Paris, on est installé Place des Victoires. Alors aujourd'hui, c'est un vrai bazar parce qu'on a encore les vélos qui transitent par là. Mais à partir de la semaine prochaine, les vélos seront dans un atelier centralisé. Donc on a un joli showroom Place des Victoires déjà.
Alors chaque jour dans La France Bouge, Marc Simoncini, on se pose à un moment donné. On découvre l'histoire d'une marque ou d'un produit français qui a traversé des générations, qui existe encore. Aujourd'hui, on retourne en 1947, il y a 74 ans, en Isère, à Vorep, dans une entreprise spécialisée dans le transport par câble.
Oui, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire téléphérique, télécabine, télésiège ou encore funiculaire, Poma est présente aux quatre coins du monde et c'est vraiment une pépite française. C'est son savoir-faire bien français et c'est la saga du jour racontée par Charlotte Barrican.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Quand vous prenez des téléphériques, des télécabines ou des télésièges, il y a de fortes chances que ce soit un Poma. Par exemple, le téléphérique de Grenoble ou encore celui qui enjambe l'East River à New York. Poma est une entreprise française qui fabrique les deux tiers de sa production en Auvergne-Rhône-Alpes et son fondateur a été le premier à imaginer ces solutions de mobilité plus douces et plus durables. Jean Souchal, président du directoire du groupe Poma.
Alors Poma, c'est une société qui a été créée par Jean Pomagalski. Juste après les JO de Chamonix, puisque ça date des années 30, avec la création du téléski Poma, qui était vraiment le départ de l'utilisation ludique du transport à câble pour des raisons de sport d'hiver. Et puis, au fil des années, après avoir participé à tout ce qui était donc l'évolution des stations et du ski, on a beaucoup travaillé sur des applications pour le tourisme, pour accéder à des lieux assez iconiques, la muraille de Chine, la canopée du Costa Rica, etc.
Et si l'entreprise a choisi de rester en France depuis plus de 80 ans, c'est aussi parce que cela participe à son rayonnement international.
On est français, on a pratiquement deux tiers de nos effectifs en France, alors qu'on travaille dans plus de 90 pays dans le monde. Donc oui, cet ADN français qui est latin et qui, dans tous les continents, apporte une vraie valeur face à nos concurrents.
Au total, Poma, c'est plus de 8000 installations dans le monde. La ville de Medellín en Colombie est en train d'installer son 7e téléphérique qui pourra accueillir 4500 personnes par heure. En France aussi, ce type de mobilité séduit de plus en plus de villes.
Nous, on est en train de finir Toulouse, hein, qui est un très très gros appareil qui va relier par exemple le métro de Toulouse, l'hôpital, et puis ensuite en traversant la Garonne, l'Oncopole par exemple. On est en train de construire des beaux appareils aussi sur l'île de la Réunion, en ville, Saint-Denis. La France est assez novatrice aujourd'hui en termes de mobilité douce et transport à câble. Il y a un vrai futur qui est en train de se construire et au niveau européen, je pense qu'on peut être satisfait en tout cas de notre créativité collective.
Avec 80% de son chiffre d'affaires à l'export, Poma a été lourdement touchée par la crise, mais l'entreprise mise beaucoup sur cette année 2021 car cette nouvelle mobilité commence à séduire l'Asie.
C'était Charlotte Barrican pour cette saga autour de Poma. Marc Simoncini, le fondateur de Mythic, hein, que l'on connaît par cela, mais également aujourd'hui par le vélo électrique intelligent. Angel est notre invité. Alors, on le voit avec vous, un énorme développement depuis maintenant plusieurs mois. Je crois qu'il y a une trentaine de salariés aujourd'hui dans votre start-up. J'imagine que vous avez besoin de vous développer et d'embaucher.
Oui, oui, on recrute à tour de bras. Oui.
Alors, vous recrutez quel type de profil et comment, pour tous ceux qui nous écoutent, qui seraient intéressés, comment peut-on faire pour candidater ?
Alors, on recrute deux types de profils. On souhaite recruter une centaine de postes. Ce sont des ambassadeurs, donc des gens qui vont pouvoir faire tester le vélo.
Là, c'est des indépendants ou c'est des CDI ?
Alors, c'est des indépendants. Enfin, on les recrute, on signe des contrats. On a la même chose sur tout ce qui est mécanicien, puisque le Angel, c'est notre propre réseau de maintenance qui est mis en place. Donc, il faut qu'on ait des mécaniciens dans toutes les villes. Donc, on recrute beaucoup de mécaniciens vélo, plus d'une centaine. Et puis, on a des postes beaucoup plus techniques, comme des postes de développeurs, des postes de web designer et des postes même de CRM pour piloter tout le CRM et la communication client dans le groupe au niveau européen. Donc on vraiment une gamme d'emplois qui va de...
Mais c'est très varié.
C'est très varié.
Ambassadeurs, des community managers,
des web designers, des développeurs informatiques.
Et des techniciens.
Et des mécaniciens spécialisés.
Il y a un profil particulier, il faut être formé à quelque chose ou vous allez...
Non, alors on forme tous les gens à notre technologie qui est unique. Alors on peut contacter tout ça sur une adresse email qui s'appelle join@angel.bike. Joignez-nous.
Vous avez 57 ans, pardon de donner votre âge. Vous dites que Angel, c'est votre dernière entreprise. Pourquoi ?
Alors, pour deux raisons. Parce que d'abord, la première, c'est que c'est bientôt 58 ans, donc à un moment donné, voilà. Et la deuxième, et c'est la plus sérieuse, c'est que c'est la première qui allie une passion que j'ai et le business. C'est la première fois, par tout ce que j'ai fait, finalement, me passionnait pas tant que ça. Mythic, j'étais marié, des lunettes, j'en avais pas besoin. Winamax, je jouais pas au poker.
Vous avez toujours été passionné par le vélo ?
Alors, le vélo, j'ai toujours été passionné par ça.
Et pourquoi là, vous avez pour pas une fondé fois... votre première boîte autour du vélo ?
Ben si, on l'a fait avec Héroïne, on a essayé de faire le meilleur vélo du monde. Bon, voilà, c'était une passion. Mais là, j'ai une chance inouïe que pour la première fois de ma vie, je passe des heures sur un truc qui me plaît. Et donc, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Alors, franchement, cette chance-là, il m'a fallu 57 ans pour l'avoir. Je vais pas rejouer au casino, donc je vais m'occuper de celle-là et ça sera la dernière.
Marc Simoncini, PDG d'Angel, vous restez avec nous encore jusqu'à 14h. Là, vous allez mettre une casquette de coach parce que vous avez monté des boîtes. Et ben, ça tombe bien, vous allez donner des petits conseils à ceux qui sont en train de se lancer.
Europe 1. Vous êtes sur Europe 1, 13h42.
Allez, direction les trophées Europe 1, la France bouge. Le pitch du jour, Itik.
Oui, une plateforme de livraison de repas 100% vegan et végétarien. On va les découvrir dans un instant. Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, elle ou ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier. Attention, Nathalie Carré est déjà là en train de vous attendre. C'est notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Puis devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, aujourd'hui, vous pouviez difficilement rêver meilleur coach, Marc Simoncini, serial entrepreneur. On pourrait citer des dizaines d'entreprises dans lesquelles il a investi, qui est aujourd'hui le fondateur d'Angel, les vélos électriques dont on parle depuis le début de cette émission.
Et aujourd'hui, nous avons affaire à un entrepreneur qui aime aussi monter des projets. Il a fondé une galerie d'art contemporain, un musée virtuel. Et là, il s'agit de livraison de repas à domicile. Pardon, un projet né du premier confinement. Bonjour Benjamin Hélion.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci à vous, vous avez 35 ans, vous êtes le cofondateur d'Itik. Itik, ça s'écrit EATIC. C'est une plateforme de livraison de repas 100% vegan, végétarien. Vous allez tout nous dire, ça a été lancé en novembre dernier, donc c'est tout jeune. On va écouter votre projet. C'est parti.
Oui,
vous
merci.
Avez
en effet, Itik est sorti courant novembre avec deux restaurants au départ. On est la première plateforme de livraison de repas éco-responsable. Donc tous les repas qu'on livre sont végétariens ou vegan. Nos livreurs sont à vélo. L'idée est née en fait du constat que pour les gens qui veulent se nourrir en conscience, de façon végane ou végétarienne, l'offre sur Deliveroo et Uber Eats est pas satisfaisante. Et en parlant avec des restaurateurs, on s'est rendu compte que de la même chose que pour les restaurateurs végétariens ou véganes, l'offre est très floue en fait. Et on s'est dit qu'il fallait trouver, il y avait un problème à résoudre qui était cette rencontre entre des restaurateurs conscients de l'environnement et de la condition animale et des consommateurs qui avaient les mêmes préoccupations.
Et ben voilà, bravo Benjamin Lyon pour ce pitch.
Alors Benjamin, merci pour votre pitch. Je vous présente Nathalie Carré, parce que chaque jour, Nathalie Carré, qui est chargée de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce, analyse et étudie chaque dossier qui arrive chez nous sur la table de la France Bouge. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Benjamin, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Nathalie Carré, vous avez étudié ITIC. Quelles sont les forces et les faiblesses ?
Alors, je vais pas faire comme d'habitude.
Pourquoi ?
Vous avez le stress devant Marc Simoncini, c'est ça ?
Non, en fait...
Dites-le, Nathalie.
Non, c'est pas ça. En fait, je suis très énervée. Le point positif, c'est effectivement... En fait, c'est le côté mouvement et c'est votre charte, votre point positif. Et du coup, vos points améliorés, c'est la cohérence. Mais pourquoi vous cachez vos valeurs et votre charte derrière une livraison de repas veggie, éthique et trop bon? C'est pas de la livraison que vous proposez, c'est la mise en avant d'entreprises de restauration solidaires, transparentes, avec des engagements sociétaux et écologiques extrêmement forts. Vous êtes très ambitieux sur votre charte. Donc votre charte, elle parle ni de veggie ni de vegan.
Mais
c'est beaucoup plus ambitieux que ça. C'est sur ces valeurs-là que vous allez fédérer une communauté de restaurateurs, qu'ils soient veggie ou pas, et une communauté de clients, qu'ils soient vegan ou pas. Sinon, autant aller sur les gros acteurs du marché.
Ouais.
Mettez en avant cette spécificité, c'est ça qui va vous différencier. Pas le fait que ça soit de la livraison veggie ou vegan.
Moi, je suis assez d'accord avec Nathalie Carré. Moi, si on résume pour nos auditeurs, c'est du Deliveroo. C'est-à-dire que vous avez des restaurants dont le point commun, c'est être végétarien ou vegan. Et à partir de là, vous nous mettez en relation. Et grâce à vous, on va pouvoir manger. Vous nous faites le choix des restaurants, c'est ça?
Oui, tout à fait. Simplement, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une vraie logique éco-responsable, on doit être végétarien ou vegan. Il n'y a pas aujourd'hui, si vous voulez, de viande ou de poisson qui soit sustainable, qui soit respectueuse de l'environnement. En réalité, c'est un peu devenu un mythe, ça n'existe pas vraiment. Du coup, nous, en effet, quand on a des restaurants qui sont véganes ou végétariens, 99% du temps, ils répondent à tous les éléments de notre charge par nature, parce qu'ils ne sont pas véganes ou végétariens pour rien. Néanmoins, je suis d'accord qu'on pourrait présenter les choses légèrement autrement.
C'était sur la façon de présenter de ce que disait Nathalie.
Mais on est obligé de mentionner le fait que c'est végane ou végétarien, parce que c'est le point commun de tous les plats qu'on livre.
Marc Simoncini, fondateur de Mythic, aujourd'hui du vélo Angel, et je le disais tout à l'heure, on pourrait citer plein d'autres entreprises dans lesquelles vous investissez et que vous continuez à investir, notamment avec votre fonds d'investissement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense qu'il a raison. Je pense que si son positionnement a été de dire tous les gens qui sont respectueux de l'environnement et qui font de la restauration viennent sur ma plateforme, on aurait tous les gens qui font du greenwashing et qui disent je respecte l'environnement, mais
parce
finalement j'en ai rien à foutre.
Parce qu'il a un plat,
je vends de la viande et du poisson. Donc quand on respecte l'environnement, on n'a pas le choix, malheureusement ou pas. C'est comme ça. Faut offrir la viande et le poisson. On connaît les ravages de la pêche industrielle. On connaît les ravages de l'industrie de l'élevage industriel. Donc on est dedans ou on est dehors. Il choisit d'être avec les gens qui sont en dehors de ce système-là. Ça va être compliqué, il n'aura peut-être pas beaucoup de restaurants au départ, mais il ne peut pas mélanger ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Donc il faut qu'ils tiennent, il faut qu'ils se battent. Je ne sais pas quelle est la proportion des gens vegan, on parle entre 5 et 25%. Bon, ben voilà, ce n'est pas énorme, enfin c'est quand même en forte croissance. C'est osé, mais c'est un pari qui peut gagner, alors que s'il est noyé dans un Deliveroo green au milieu des gens qui disent qu'ils sont éthiques, il n'a aucune chance de s'en sortir.
Donc vous validez ?
Moi, je survalide.
Benjamin, vous recherchez quoi aujourd'hui ? Vous avez besoin de quoi ? D'argent ? De visibilité ?
Quel est votre besoin ? On a besoin des deux, parce qu'aujourd'hui, l'application a été téléchargée par 5000 personnes, alors que 5% des Français se disent végétariens ou véganes. On a besoin de financement pour aller plus vite.
Combien ?
Ça, en fait, sur les besoins de financement, on peut faire avec différentes organisations, mais disons qu'avec un peu moins d'1 million d'euros, on pourrait aller très très vite. Je pense qu'aujourd'hui, on est allé jusque-là et beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu sans aucun financement. Là, on a une cinquantaine de restaurants à Paris. On va se développer en province à partir du mois de mars. Avec du financement, je pense qu'on peut couvrir toutes les grandes villes de France et partir à l'étranger dans des grandes villes d'Europe en moins d'un an.
Marc Simoncini, en ce moment, quand on voit chaque jour, on voit des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Est-ce le moment de se lancer, de monter sa boîte ?
Alors, d'abord, c'est toujours le moment, mais pendant les crises, c'est encore plus le moment. Et moi, étant partenaire de Daphni, un fonds d'investissement, on a vu effectivement que pendant la pandémie, ça s'est un peu ralenti. On s'est dit, oulala, peut-être que finalement les gens ont peur de se lancer dans cette période, ce qui est vraiment effrayant. Mais quelques mois plus tard, on a vu qu'au contraire, on avait plein d'initiatives de gens qui ont profité de ce nouveau monde dans lequel on a été plongé sans pouvoir l'avoir choisi. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent aujourd'hui. Donc, on voit qu'après une crise, c'est souvent le bon moment pour résoudre les problèmes qui sont apparus pendant la crise. Mmh. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit un problème et qu'on fait une opportunité. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc oui, c'est le bon moment et c'est souvent comme ça.
Eh bien, en tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance, Benjamin Hélion, cofondateur de Itik. Revenez nous voir pour nous dire où vous en êtes. Nous, on aime bien avoir des nouvelles de nos pitchers.
Avec plaisir.
Merci à vous.
Et Nathalie Carré, on vous retrouve demain. Si vous aussi, vous voulez présenter votre projet, une seule adresse mail, lafrancebouge@europe1.fr, et vous pourrez comme ça présenter vos projets en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Marc-Simon Signy, fondateur d'Angel. Suite et fin de notre émission, vous restez encore un tout petit peu avec nous.
Europe 1. Et il est 13h52.
Un instant, demain au travail, notre société change, nos entreprises aussi, et nous on a trouvé une entreprise qui met à disposition ces espaces vides aux étudiants.
Oui, on passera un coup de fil au cofondateur de Startway. À tout de suite. Et bien sûr, quelle bouchée de France, on le voit chaque jour dans l'émission en direct de 13h à 14h du lundi au vendredi. Et nous sommes toujours avec Marco Simoncini, le fondateur du vélo électrique Angel.
Et notre société change, on le voit chaque jour dans La France Bouge. Et nos entreprises aussi, elles doivent s'adapter, comme cette entreprise Startway. Bonjour Grégory Ortiz.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Startway qui a été créé en 2008. C'est une entreprise qui fait du coworking. Elle a été créée pour accompagner tous les créateurs d'entreprises pour qu'ils aient de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, vous avez 40 salariés. Aucun des salariés n'a réellement de bureau. Ils travaillent avec les clients en coworking. Et en ce moment, période compliquée, vous avez pu voir un peu votre fille de 18 ans qui n'avait pas trop le moral, et vous avez eu envie d'aider les étudiants grâce à votre entreprise. Racontez-nous comment.
Écoutez, c'est un peu du bon sens. Et comme vous l'avez dit, c'est ma fille de 18 ans que j'ai vue depuis le mois de mars, je dirais, devenir un peu aigrie. Puis le fils de mon associé, lui-même étudiant, commençait à perdre le moral. Et il est venu chez nous une après-midi travailler dans un de nos espaces de coworking. Et sa remarque nous a conforté avec mon associé en nous disant « mais j'ai retrouvé le sourire en venant ici ». Et du coup, on s'est simplement dit comment notre entreprise aujourd'hui peut se rendre utile dans une période de crise. On a des espaces de travail qui ont été ouverts aussi aux salariés d'ailleurs, qui étaient en mal de lien social. Et on s'est dit comment on peut être utile aujourd'hui à une population étudiante qui souffre. Et la preuve autour de nous, et on s'est dit ouvrons nos espaces partout en France puisqu'on a quelques disponibilités.
Donc ça se passe comment de façon concrète, puisque vous avez lancé l'initiative, je crois, il y a 2 semaines, il y a déjà 200 à 300 jeunes qui ont participé. On va comment ? On va sur le site de Startway, et puis là on trouve les endroits disponibles si on est étudiant pour venir passer quelques heures ?
Alors, tout simplement, vous allez sur le site Startway, donc c'est start-way.com/étudiant. Et vous allez arriver directement sur la page étudiant. Il suffit de remplir le formulaire et vous allez avoir nos responsables de site qui vont rappeler directement les étudiants pour leur donner l'accès au bâtiment, puisqu'on doit quand même respecter des mesures sanitaires, que vous comprendrez bien.
Mmh. Quel type d'étudiants, c'est quoi ? C'est des étudiants en quoi ? Il y a un lien avec votre activité ? Vous avez qui comme profil ?
Du tout. J'ai des étudiants, beaucoup d'étudiants étrangers qui sont dans la cité.
Ils n'en peuvent plus dans leurs 2 mètres carrés.
Exactement. Mmh. On va avoir des étudiants en médecine, des ingénieurs, des étudiants en commerce. On a vraiment tous les secteurs de représentés. À côté de moi, j'ai une étudiante en droit. Mmh.
Petit point quand même important à avoir en tête, ce n'est pas gratuit. Ça coûte 1 euro par jour.
Oui, je suis une entreprise, je n'ai pas le droit de le faire gratuitement.
Ah, c'est pour ça que vous êtes obligé de le faire payer ?
Exactement.
Ah oui, vous n'aviez pas le droit de les faire venir gratuitement ?
Je n'ai pas le droit de faire un service gratuitement, non.
Ah oui, dis donc, ça c'est impressionnant. Donc c'est 1 euro par jour pour les salariés qui avaient envie de venir.
pour les étudiants.
Pour les étudiants, oui, bien pour évidemment, les étudiants. Pardonnez-moi.
Marc Simoncini, je vois que vous écoutiez attentivement cette aide aux étudiants, aux jeunes, pour vous c'est important.
Ah oui, parce que j'ai découvert, alors je vous avoue que ça m'est tombé dessus, je ne me rendais pas compte à quel point c'était compliqué pour les gosses, alors que j'en ai deux, hein, je vois bien dans quel état ils sont, mais bon, j'avais pas fait gaffe. Et puis on a une entreprise qui s'appelle Linky, qui s'est un peu reconverti en urgence pour livrer des repas pour, oui. pour les étudiants. Et en regardant un reportage sur une boîte dont pourtant je suis actionnaire, j'ai découvert l'ampleur du désastre, mais enfin presque, quoi. Et franchement, et j'en parlais hier avec un copain, Santoro, joueur de tennis, qui me disait il faut absolument qu'on arrive à trouver un truc à faire pour aider les étudiants. J'ai dit écoute, franchement, on est pris de court là.
Donc vous travaillez dessus, vous allez trouver quelque chose.
Le temps qu'on monte un projet aujourd'hui, j'espère que la crise sera derrière nous. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que ça touche tout le monde et c'est une bonne chose.
En tout cas, merci pour votre initiative, Grégory Ortiz. Vous êtes le cofondateur de Startway.
Un grand merci à vous, Marc Simoncini, de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Et bon retour à vélo.
Merci. Emmanuel, nous on se retrouve demain, mercredi à 13h. On parlera de quoi demain?
Après vélo, on va aller réparer les voitures. Ah puisque oui, demain, ce sera le patron de Feu Vert qui est le numéro 2 du secteur en France.
Alors à demain, restez sur Europe 1 dans un instant le flash, suivi de Christophe Ondelat.
C'était La France Bouge avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.